Et nous allons lire ce psaume en considérant le plan, les différentes parties que nous y avons. Voilà, déjà vous avez une première partie dans laquelle vous voyez que Dieu s'adresse à tout homme depuis la perfection et la gloire de sa cité céleste, de la Jérusalem céleste. C'est dans les versets 1 et 2, cette première partie. Psaume d'Asaph, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Voilà. Deuxième partie maintenant, verset 3 jusqu'au verset 6, et là il est question de Dieu venant pour juger tout homme, en commençant par son peuple. Nous lisons donc, verset 3, « Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. » Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge pose. Voilà. La troisième partie, du verset 7 au verset 13, nous parle de Dieu exhortant son peuple à aller plus loin que simplement d'offrir des sacrifices. Je crois au verset 7 déjà. « Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? » Voilà. Et après notre quatrième partie, versets 14 et 15, voilà ce que Dieu attend, ce qu'il attend avec les sacrifices. Ce n'est pas juste les sacrifices, ce qu'il attend avec les sacrifices. Verset 14. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifiera. Amen. » Mais Dieu n'oublie pas le méchant. Dieu n'oublie pas le méchant, et c'est pour ça que vous avez la partie suivante, la partie 5, la cinquième, du verset 16 au verset 20, que Dieu le reprend et qu'il ne perd rien pour attendre. Et Dieu te dit au méchant, « Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et t'apparaît avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. » Et alors, la partie suivante maintenant, c'est ce que Dieu fait, ce que Dieu va faire. Ce qu'il fera en ce qui concerne le méchant, spécialement celui qui s'endurcit, celui qui ne veut pas se repentir, évidemment. Versets 21 et 22. « Voilà ce que tu as fait, et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. » Et enfin, la dernière partie, c'est la promesse finale du verset 23 pour ceux qui sont fidèles. Et là, nous lisons, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu incolore, inodore et sans saveur. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est là, comme ça, dans le ciel, une espèce de bon papa plus ou moins gâteux, là, comme certains s'imaginent. Ce n'est pas du tout ça, Dieu. Ça n'a rien à voir. Et ce passage, ce psaume, je pense, nous le montre. Et puis, vous avez plusieurs sujets que nous allons pouvoir un petit peu développer, ou du moins exposer, au moins. Déjà, en premier, nous parlerons de la notion de sacrifice qui est indispensable dans la vie du croyant parce qu'elle revient pas mal dans ce psaume. On le voit bien. Et puis, nous parlerons aussi du voulant des accompagnements du sacrifice pour montrer qu'il est vraiment selon Dieu. Et puis, nous pourrons aussi parler des choses à l'égard desquelles il nous faut demeurer sur nos gardes, puisque là aussi, notre psaume nous en parle. Et enfin, nous pourrons parler des trois belles promesses que Dieu fait aux siens, une au début, une au milieu et une à la fin. Voilà, donc en premier, parlons du sacrifice. Un sacrifice indispensable dans la vie du vrai croyant, et c'est une des vérités centrales et premières de notre psaume, on le voit bien. Il faut qu'il y ait sacrifice là où il y a un vrai croyant vraiment converti. Je relis rapidement le verset 5. Hein. « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Je passe au verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Et je saute au verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et enfin, je passe au verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Vous voyez que le sacrifice est là. Quand on s'approche du Seigneur, on y vient trop souvent au début, essentiellement par intérêt. Voyez-vous, hein, voilà, pour une guérison, pour une délivrance, pour un exaucement, pour un secours d'en haut, pour être délivré de la crainte de la perdition, recevoir l'assurance du salut et pour être béni. Et bien sûr, ces choses ne sont pas mauvaises, nous sommes bien d'accord, et il faut venir à lui pour cela, mais il faut quand même un jour qu'il y ait vraiment une évolution. Vraiment un jour que ce ne soit plus notre intérêt personnel avant tout qui nous fasse marcher, mais l'amour pour celui qui nous a tant aimé. Et ça, c'est la différence entre la personne plus ou moins religieuse, qui peut venir parfois même pendant des années dans une église, et celle qui est vraiment convertie, voyez-vous. Hein ? C'est là la grande différence. Et donc, c'est celui-là seul qui vient pour le Seigneur et qui vient pour donc lui apporter un sacrifice à sa gloire. C'est celui-là seul qui tiendra bon au moment de l'épreuve, hein, lorsque l'épreuve viendra parce qu'elle viendra. Je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé l'autre jour, hein, et qui a pour titre « Job, l'amour pour rien ». Il y en a qui posent la question du livre de Job, quel est le sens du livre de Job ? C'est intéressant à ce sujet. Et voilà ce petit texte. « Dieu aime Job ». Et se réjouit de l'amour de Job. Et même Dieu a besoin d'entendre louer celui qu'il aime. As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil, c'est ce qu'il dit à Satan. Hein ? Mais Satan refuse de partager cet enthousiasme. Il ne va pas contester le service, la piété, la justice de Job, mais bien la valeur de ce service et de cette piété. Il ne va pas accuser Job de crimes, de fautes, de méfaits, ni même d'hypocrisie, ce serait peine perdue. Il va l'accuser simplement d'avoir une arrière-pensée. Il va mettre sur toute sa fidélité le point d'interrogation le plus insidieux, le plus venimeux. Est-ce donc pour rien que Job te sert ? Est-ce vraiment toi qu'il aime ? Ou ton argent, ta puissance, tes bienfaits, ton titre ? Pour rien. Ce sont les deux mots-clés du livre de Job, le fil conducteur de toute l'écriture. On peut les traduire autrement et mettre gratuitement ou par amour. Car l'amour n'est très exactement rien pour celui qui n'aime pas. Et on retrouve la question de Satan dans la bouche de tous ceux qui s'étonnent de l'absence de raison de l'obéissance chrétienne. Satan conteste la possibilité de ce rien, de cette gratuité. Il défie Dieu d'être parvenu à créer cet amour dans le cœur de l'homme. Il parie qu'il n'existe sur la terre aucun homme qui aime Dieu et qui par conséquent lui appartienne vraiment. Dieu est entouré, selon lui, de courtisans et pas d'amis. Et les courtisans de Dieu sont en fait les serviteurs de Satan. Si Job ne sert pas Dieu pour rien, c'est Satan qu'il sert. Le procès de Job aura donc pour but de mettre en évidence à qui Job appartient. Nous jugeons scandaleux que Dieu ne réponde pas lui-même à la question du diable, car nous sommes sûrs que Dieu pourrait de cette manière le convaincre et le vaincre. Or, l'esprit malin ne se laisse pas impressionner par des moyens extérieurs ou les affirmations péremptoires. Une réponse directe de Dieu serait sans pouvoir sur lui. Il faut que Job réponde, et seule cette réponse pourra le vaincre. Car Satan ne peut être vaincu que par un plus faible que lui, par Job dans sa faiblesse, et non par Dieu dans sa puissance. C'est du moins ce à quoi devrait nous rendre attentif l'acceptation par Dieu du défi de Satan. Il faut que Job soit éprouvé. Il le faut parce que Satan ne peut être convaincu autrement. Le malin n'est pas un pouvoir de ce monde qu'un pouvoir plus fort écrase, un croiseur de 25 000 tonnes que surclasse un croiseur de 40 000 tonnes. Il est un pouvoir spirituel qui ne peut être exorcisé et anéanti, précipité, comme dira l'Apocalypse, que par un pouvoir d'une autre dimension, le pouvoir d'un amour absolu révélé dans l'épreuve absolue. Et c'est vrai que cette épreuve de Job, ça a été aussi le sacrifice de son amour pour Dieu, un amour prouvé par un sacrifice de toute sa vie pour lui. Voilà. Alors, on se trouve chacun devant ce problème-là, à notre niveau, bien sûr. Hein. On n'est pas tous au niveau de Job. Hein. Mais il faut quand même quelque part que notre cœur soit soumis au Seigneur. Hein. Et que ce soit pour lui avant toute chose, et que ce soit par amour pour lui. Hein. Et souvent, il y aura une évolution. Au début, ce sera, ben, on ne veut pas de Christ, mais c'est nous. Hein. Après, on peut évoluer un peu et dire, oui, nous, d'accord, mais Jésus dans notre vie, mais après nous. Voyez-vous, hein, c'est une évolution. On veut Jésus dans notre vie, mais après nous. Hein. Et puis après, si on évolue encore, on peut arriver peut-être au point où ce sera Christ et nous. Voilà. Et puis quand même, la vraie bonne chose, c'est non plus nous, mais lui. Hein. Lui en premier. Et l'idéal, c'est que ça puisse se faire instantanément ou en très peu de temps, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Hein. Voilà. Enfin, si ça se fait, tant mieux. Hein. Et j'ai encore cette petite poésie, justement, qui parle du même sujet, qui a pour titre « Moi ou lui ?» que je vous lis. « Refusant de se soumettre et d'obéir à la loi, mon âme, loin de son maître, disait, non pas Christ, mais moi. Perçant les ombres du doute, comme une étoile en ma nuit, dans mon cœur il fit sa route, mais je disais, moi, puis lui. Sa voix pressante sans cesse me répétait, donne-toi. Répondant à sa tendresse, je pus dire, Christ et moi. Enfin, ce fut la victoire, en moi la lumière à lui. Désormais, cherchant sa gloire, je dis non plus moi, mais lui. Amen. Voilà. Hein. Et la vie de tout vrai croyant débouche sur cette réalité du sacrifice de sa vie pour son Seigneur et son Sauveur. Amen. Alors, notre deuxième point, avons-nous vu, ce sont les accompagnements du sacrifice qui montrent qu'il est vraiment selon Dieu. Alors, qu'est-ce qui accompagne ce sacrifice? Eh bien, le verset 5 nous dit que ce sacrifice nous rend fidèles. Il est marqué là. « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » La fidélité, c'est quand on est près du Seigneur, quand tout va bien, et puis quand ça ne va pas bien. Hein. La fidélité, c'est dans la bonne réputation et aussi dans la persécution, dans les calomnies. Hein. La fidélité, c'est dans la bonne forme et puis aussi quand on est fatigué. La fidélité, c'est dans la facilité et c'est aussi dans l'épreuve. La fidélité, c'est dans la joie et aussi dans les larmes. Parce que la vie, l'existence, c'est aussi comme ça. Hein. Et puis, une chose qu'on voit encore, c'est que ce sacrifice, c'est quelque chose qui nous fait faire une alliance avec Dieu. Hein, c'est ce qu'on a vu dans ce verset 5 que je relis. « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un contrat. Hein. Vous achetez une voiture dans un garage, par exemple, je ne sais pas, imaginons. Ben, vous faites un contrat, vous signez un contrat. Contrat par lequel vous vous engagez peut-être à verser tant de mensualités, je ne sais pas. Et puis, de l'autre côté, ben, le garage, ben, lui aussi vous promet que le véhicule est en bon état, vous assure une garantie, etc. Vous voyez, chacun a sa part. Hein. Et puis chacun s'engage en connaissant sa part et en connaissant la part de l'autre. Hein. Je dirais qu'une alliance avec Dieu, c'est ça. Hein. Une alliance avec Dieu, c'est un contrat et c'est quelque chose qui est là. Puis on réalise les promesses de Dieu, promesses que Dieu fait, parce que quand on fait un contrat avec Dieu, Dieu s'engage, il accomplit ses promesses. Mais nous avons aussi notre part à faire, hein, chacun et chacune d'entre nous. Donc c'est cet engagement mutuel qui fait partie aussi de ce sacrifice que Dieu honore et que Dieu apprécie à sa juste valeur. Et puis, je vois aussi que ce sacrifice nous fait rendre grâce. C'est pour ça que dans le verset 14, je lis encore, « Offre pour sacrifice à Dieu » des actions de grâce, alléluia, des remerciements, de la reconnaissance. Et c'est vrai, mes frères et sœurs, nous n'avons qu'à commencer à réfléchir un petit peu à tous les bienfaits. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Et c'est vrai. Que de choses par lesquelles Dieu nous prouve son amour, sa fidélité, ses tendres soins jour par jour. Et donc ça, eh bien, c'est quelque chose qui doit nous amener à avoir ce cœur reconnaissant qui accompagne un sacrifice agréable à Dieu. Et puis c'est un sacrifice aussi qui nous fait écouter. Parce que ça aussi c'est important. Juste après cette notion de sacrifice, au verset 7, il est marqué « Écoute mon peuple ». et je parlerai Israël et je t'avertirai. Quand une vie est sacrifiée au Seigneur, eh bien, elle n'a pas de mal à écouter la parole de Dieu. Au contraire, elle le désire. Elle y aspire, donc elle veut savoir quelle est la parole de Dieu, elle veut savoir quelle est la volonté de Dieu, elle la recherche. C'est pour ça que vous avez cet autre texte qui dit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples ». Et c'est vrai que lorsque nous écoutons le Seigneur, lorsque nous avons à cœur de chercher sa volonté, vous savez, le Seigneur il va nous la révéler, sa volonté. Hein. Le Seigneur va nous parler. Il va le faire par l'Écriture sainte. Habituellement, c'est par l'Écriture sainte qu'il le fait. Et puis par toutes sortes de moyens qu'il peut utiliser pour nous faire comprendre ce que nous avons besoin de comprendre si notre cœur est bien disposé envers lui. Amen. Et puis c'est un sacrifice qui fait aussi, nous fait aussi accomplir nos vœux. Hein. Verset 14 encore, « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Voilà. Les vœux, c'est quoi ? Ben, c'est les engagements qu'on prend hein, devant Dieu. Ah, il faut réfléchir aux engagements qu'on prend. Hein. Il ne faut pas prendre des engagements sans savoir ce qu'on est en train de faire. Hein. On ne prend pas des engagements devant n'importe qui, c'est devant Dieu qu'on les prend. Hein. Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Hein. Donc, que nos paroles, à ce niveau-là, soient peu nombreuses, mais qu'elles soient réfléchies. Et puis ensuite, voilà, mettons cela en pratique et maintenons-le. Donc, c'est cela qui est indiqué là. Donc, engagement de mise à part pour Dieu, hein, ce qu'on appelle la sanctification. Engagement d'obéissance au Seigneur, hein, spécialement dans nos membres. Engagement de fidélité dans la maison de Dieu, envers le peuple de Dieu, envers nos frères et sœurs, dans la foi. Engagement dans son œuvre hein, pour y participer, y faire notre part. Et engagement de tenir bon et de croître dans ses voies. Il nous secourra pour cela. Sans cela, bien sûr, eh bien, nous ne pourrions pas y accomplir. Mais voilà ce sacrifice qui fait accomplir nos vœux. Et puis un sacrifice qui fait aussi glorifier Dieu. Hein, là également, dans le verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et vous retrouvez ça dans le verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce me glorifier. » Glorifier Dieu, hein, glorifier Dieu pour ses délivrances, glorifier Dieu pour son secours, surtout ne pas oublier les bénédictions que Dieu nous a accordées. Vous savez, ceux qui ne sont pas convertis, il y a deux solutions. Quand ils vont voir Dieu agir dans leur vie, si Dieu fait quelque chose dans leur vie, alors soit ils vont l'oublier, ils vont se relâcher, ils vont partir. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de gens, vous savez. Ils sont venus ici, ils ont eu de grandes, de belles choses de la part de Dieu, hein, de beaux miracles, de belles guérisons, de belles délivrances. Puis un jour, ils sont partis, voilà, parce qu'ils ont oublié. Hein. Ou alors, vous en avez d'autres, la solution inverse, c'est de s'enorgueillir, c'est de s'attribuer à soi la gloire de la chose, voyez-vous hein, de se dire, bah oui, mais si Dieu agit pour moi, c'est que quand même je suis quelqu'un. Hein. Par exemple, je ne sais pas, hein, on peut dire tellement de choses comme ça, mais en fait, c'est à Dieu que doit revenir la gloire, hein. Et le fidèle qui offre sacrifice, eh bien, il glorifie Dieu. Et ce sacrifice, enfin, nous fait veiller, puisque dans ce verset 23, nous lisons encore, « Celui qui offre à Dieu pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Il faut veiller, mes amis. Nous vivons dans un monde compliqué. Nous vivons dans un monde dangereux. Nous vivons dans un monde où on peut faire, le croyant peut faire des faux pas à tout moment. Hein, et vous faites pas de soucis que le diable est là pour nous mettre des pots de banane autant qu'il peut. Hein. Alors, soit il va nous pousser par derrière pour nous faire tomber, ou alors il va essayer de nous retenir pour qu'on n'avance pas. Et vous ? Bon, il va toujours agir, et c'est pour ça qu'il faut qu'on veille. Il y a un combat. Hein. Donc, et c'est pour ça que le Seigneur Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature charnelle est faible. Voilà, Matthieu 26, verset 41. Et puis Jésus dit ce que je vous dis, il disait ça aux disciples qui étaient là, donc avant Gethsémané, il précise bien, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Et c'est vrai. Voilà, nous allons parler des choses qui accompagnent ce sacrifice et qui font qu'il a toute sa valeur auprès du Seigneur. Maintenant, notre point suivant que nous voyons donc là, spécialement à partir du verset 16, c'est les choses à propos desquelles il faut que nous puissions nous tenir en garde. Dieu s'adresse aux méchants pour l'avertir et ceci nous montre les choses qu'il faut éviter. Hein ? Là encore, donc déjà, le méchant est les avis. Il hait les avis, il hait les conseils, il hait les recommandations. Pourquoi ? Parce qu'il aime bien faire ce qu'il veut. Il veut en faire à sa tête. Voilà, et ça, c'est un problème. Hein. Souvenez-vous, le fils prodigue, il est parti, il voulait en faire à sa tête, tous les bons conseils de son papa et de son entourage. Allez, on n'avait rien à faire, et puis le voilà parti. Donc, voilà. Et c'est pour ça que nous, eh bien, ayons à cœur, bien sûr, d'écouter les avis de ceux qui sont fidèles au Seigneur, évidemment. Hein, et puis, c'est tout spécialement de ce que le Seigneur veut nous dire, ce que le Seigneur nous fait parler, veut nous faire comprendre, veut nous parler, donc, à nos cœurs, par son esprit et par sa parole. Amen. Ensuite, le méchant jette les paroles de Dieu derrière lui, au verset 17, ça veut dire qu'il n'en tient pas compte, ça va avec le point qu'on vient de voir, et j'ai dit, c'est encore aggravé par le fait qu'en fait, ça veut dire qu'il connaît la parole de Dieu. S'il la jette derrière lui, c'est qu'elle a été devant lui d'abord, hein, donc ça veut dire qu'il la connaît. Donc ça veut dire qu'il a une culpabilité qui est aggravée, une responsabilité aggravée par le fait qu'il connaisse ce qu'il faudrait faire et qu'il ne veut pas le faire. Hein, donc ça, c'est un vrai problème. Et même, il en parle, hein, comme on l'a vu au verset 16. Donc, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que nous, à l'inverse, eh bien, il faut que nous puissions vraiment nous attacher à cette parole et la garder continuellement devant nous. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », dit le psaume 119. Et puis, le méchant aussi se plaît dans les mauvaises compagnies. C'est ce qu'on voit également au verset 18. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'il faut bien sûr se couper de tout contact avec la société, c'est pas ça, hein. On n'est pas destiné à devenir des ermites dans le désert ou dans la forêt. Hein. C'est pas ça que Dieu nous demande, puisqu'il nous demande d'être des témoins. Comment est-ce qu'on va être des témoins si on n'est pas avec les gens ? Donc il faut qu'on y soit quand même. Mais malgré tout, il est vrai aussi que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hein. Donc ça veut dire que là, il faut faire attention. Faire attention parce que vous savez, on peut être effectivement, on peut être contaminé, hein, et si on ne fait pas attention, voilà, si on va avec des gens, je ne sais pas moi, qui sont violents ou qui sont, ben, ça, faut pas dire que ça n'aura pas d'influence sur nous, hein. On ne choisit pas, quand on est influencé, on ne choisit pas d'être influencé ou pas. Par contre, on peut choisir les influences, on peut choisir la compagnie qu'on veut avoir, les gens avec lesquels on a des relations suivies et régulières, hein, et que par conséquent, eh bien, nous puissions nous attacher effectivement à ceux qui ont à cœur de faire le bien, à ceux qui ont à cœur de vraiment suivre le Seigneur, qui veulent changer à sa gloire, et qui seront pour nous des soutiens et des encouragements dans ce sens. Amen. Et si je poursuis encore, eh bien, je vois qu'il est marqué au verset 19 et 20 que le méchant prononce de mauvaises paroles, hein, voilà, en particulier contre certains qui lui sont proches. Donc, et puis il s'assied en compagnie des moqueurs. Est-il marqué là, les moqueurs, c'est vraiment les gens qui disent du mal, voyez-vous, hein, des diffamateurs, c'est dit. Et là aussi, que nous puissions éviter les gens qui font ça. Hein, évitons-les. Je dis bon, il ne s'agit pas de ne pas leur dire bonjour. Encore une fois, c'est pas la question, mais c'est la question, vous voyez, il y a une différence entre le contact qu'on a avec quelqu'un et la relation qu'on a avec quelqu'un. Hein. On a un contact avec tout le monde, hein. On ne doit éviter, pas éviter les gens, mais en tout cas, en ce qui concerne la relation, eh bien, soyons de ceux qui choisissent ceux qui ont de bonnes paroles, ceux qui ont des paroles encourageantes, des paroles édifiantes, hein, qui vont pouvoir nous être d'un soutien et un exemple pour que nous aussi nous puissions agir de cette manière et que nous puissions être des moyens de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Et puis ce qui est terrible, c'est qu'on voit que le méchant s'imagine que Dieu lui ressemble. Hein, voilà, ah oui, verset 21. Hein. Donc, voici ce que tu as fait, je me suis tué, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Voilà. Pourquoi ? Parce que Dieu ne lui dit rien. Alors il pense que Dieu l'approuve, parce que Dieu le laisse faire n'importe quoi. Aussi, bon, ben, ça veut dire que Dieu est d'accord. Vous savez, Dieu supporte des tas de choses avec lesquelles il n'est pas d'accord. Hein. Il les supporte pendant tout un temps, heureusement pour nous tous d'ailleurs qu'il nous supporte. Hein. La parole de Dieu dit que Dieu est rempli de patience envers tous les hommes, envers les méchants aussi. Oui, c'est vrai. Et heureusement qu'il est rempli de patience envers tous, parce que sinon, est-ce qu'on aurait pu se repentir, nous, sinon, hein ? Voilà, parce que c'est ça la chose. Hein. Mais c'est vrai aussi que, bien souvent, Dieu ne châtie pas le méchant tant qu'il est sur la terre. Et on peut se dire, mais comment ça se fait ? Eh bien, ça se fait, voilà. Mais en tout cas, je vais vous dire, il vaut mieux être châtié par Dieu quand on est sur la terre et qu'on soit ainsi ramené dans l'amour de Dieu, dans l'obéissance de Dieu, plutôt que de ne pas l'être. La parole de Dieu dit que Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Quand vous avez un père qui ne s'occupe pas de ses enfants, et que ses enfants font des grosses bêtises et puis qu'ils les laissent faire, qu'ils s'en fichent, est-ce que vous croyez qu'il leur fait leur bien? Ben non, bien sûr que non. Il ne fait pas leur bien. Hein, il faut qu'il les redresse, les enfants, il faut qu'il les conduise, qu'il leur montre ce que le bon chemin, qu'il les corrige parfois. Ben, c'est nécessaire parfois de corriger ses enfants. Hein, alors évidemment, il ne s'agit pas de les traumatiser, mais il faut quand même les corriger. Et c'est comme cela qu'on fait leur bien. Un père qui aime ses enfants, eh bien, quand il a besoin de les châtier, il les châtie. Pour leur bien, évidemment, de manière équilibrée, mais il le fait. Hein. Est-ce que celui qui ne le fait pas, eh bien voilà, ça veut dire qu'il n'aime pas. Alors si Dieu nous châtie pour notre bien, eh bien nous sommes dans son amour. Alléluia. Et sachons-le, c'est son désir aussi. Et donc, eh bien, que nous ne puissions pas baser notre idée sur Dieu, sur notre imagination, je ne sais pas quoi, mais sur la vérité de sa parole. Et puis le méchant, en fait, oublie Dieu. Il dit au verset 22, il n'a pas la crainte du Seigneur. Et c'est à cause de ça qu'il agit comme si Dieu n'existait pas et comme s'il n'allait jamais y avoir de jugement. Vous savez, le XXe siècle a été le siècle dans lequel on a appelé le siècle des génocides. Parce que c'est dans le XXe siècle que vous avez eu le plus de génocides. Pourquoi ? Eh bien, parce que justement, on avait oublié Dieu. Vous voyez ? Avant ça, il y avait eu des guerres, il y avait eu des guerres de religion même, il y a toutes sortes de choses comme ça. C'est vrai, ça se produisait. Et vous aviez des gens qui étaient immoraux et qui faisaient du mal à cause de ça. Mais il y a quelque chose de pire que d'être immoral. C'est d'être amoral. Vous savez ce que ça veut dire quand on est amoral ? Ça veut dire qu'il n'existe plus de morale du tout. C'est pour ça que vous avez eu le nazisme. Le nazisme, c'était, il n'y a plus de Dieu, Dieu n'existait pas. Et à l'inverse, vous avez eu aussi le communisme soviétique, par exemple. Et là aussi, Dieu n'existe pas. Donc ça veut dire que si Dieu n'existe pas, ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal. Ou alors il n'y a plus que le bien et le mal relatif. Et ça veut dire qu'on est prêt à tuer les gens en masse. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement dans les deux cas. Et voyez, c'est ça le problème. Donc, gardons-nous d'oublier le Seigneur. Parce que nous vivons dans un monde, malheureusement, on s'aperçoit, en tout cas le monde occidental, on s'aperçoit que c'est de plus en plus le cas. Et puis enfin, nous pouvons considérer les belles promesses que Dieu fait aux siens. Vous en voyez une au début, une au milieu et la troisième à la fin du psaume. Donc au début, c'est la promesse de l'enlèvement que nous voyons versets 5 et 6. Là, vous savez, « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. » Ce rassemblement, cette constitution du corps de Christ, de l'épouse de l'agneau, qui est le rassemblement ultime des croyants, des croyants de l'Église. Ensuite, il est question de ceux qui ont fait alliance par le sacrifice, donc par le sacrifice de Christ, donc ils ont fait cette alliance. Et puis, bien sûr, celui de leur propre vie en retour. Et quand il est question des cieux qui publient sa justice, juste au début du verset 6, eh bien, pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, ils y seront pour le glorifier. Et enfin, il parlait de la préparation du jugement, verset 6 aussi, parce que le grand jugement, le jugement dernier, donc, qui suivra de peu cet enlèvement. Là, vous avez donc une promesse qui est une préfiguration. Au milieu, c'est la promesse, au milieu du psaume, verset 15, c'est la promesse de la délivrance. Donc, c'est valable au jour de la détresse, quel que soit le jour de notre détresse. Il est marqué là, « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » Et tu me glorifieras. Amen. Et vous voyez que c'est quelque chose de tellement général que ça s'applique à toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver, dans n'importe quelle détresse. Donc, la promesse de totale délivrance, une délivrance qui vient vraiment du Seigneur, donc, et c'est lui qui va en être glorifié. Donc, et à ce moment-là, eh bien, quand on l'invoque, quand on crie à lui, il nous répond, il nous délivre, c'est assuré, c'est une promesse puissante, valable pour tous les moments et toutes les situations de notre vie. Amen. Et enfin, à la fin, vous avez une promesse de plein salut. C'est dans le dernier verset, là il est marqué, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir quoi ? Le salut de Dieu. » Les trois derniers mots du psaume, c'est le salut de Dieu. Voilà ce que Dieu veut pour les siens. Ça, c'est une promesse, c'est une assurance. Ça nous montre le bon désir de Dieu. Son désir, c'est que nous puissions tous recevoir, saisir et garder ce plein salut. Alléluia. Et n'oubliez pas une chose, c'est que dans l'Ancien Testament, quand il est question du salut, ça recouvre bien sûr la vie éternelle, mais ça recouvre toutes les situations même de cette existence où on a besoin d'être sauvé de quelque chose. Ça recouvre tout cela aussi. Et ça nous montre aussi, encore une fois, l'amour et la bonté de notre Dieu. Amen. Amen. Bien que Dieu bénisse sa parole pour chacun de nous. Amen. Te remercions, Sauveur. Bénissons pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, qui est efficace, qui est tellement encourageante, Seigneur, affermissante pour chacun d'entre nous. Nous te remercions pour ces bonnes promesses auxquelles nous pouvons nous attacher, Seigneur, et que nous pouvons invoquer devant toi, que nous pouvons brandir devant toi lorsque nous intercédons, lorsque nous te prions, Seigneur. Nous te remercions de tout cœur, Jésus. Béni soit ton nom. Béni sois-tu pour ce grand sacrifice que tu as offert nous-mêmes, pour toi-même, Seigneur. Et par ce sacrifice, nous aussi, nous pouvons t'apporter le sacrifice de nos vies. Béni soit ton nom, Jésus, le faire de bonnes dispositions. C'est toi qui nous soutiens et qui reçois cela et qui l'accepte, Seigneur, et qui le bénit. Sois loué, notre Dieu. Amen.